Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans 325 jours, les Jeux Olympiques de Paris, les Jeux de la 33e Olympiade, seront officiellement déclarés ouverts. De nombreux athlètes se préparent avec un objectif, briller sur la plus prestigieuse scène du monde sportif. Certains ont déjà leur qualification en poche, d'autres peuvent y parvenir jusqu'au dernier moment. Parmi eux, de nombreux athlètes genevois, hommes et femmes, espèrent partir avec la délégation suisse en juillet prochain, direction la capitale française. Nous allons suivre quatre de ces athlètes. Par ici les Jeux, un épisode toutes les deux semaines. Et pour se jeter à l'eau, on commence aujourd'hui avec le nageur genevois de 23 ans, Roman Mitiouk.
Par ici les Jeux, suivez quatre athlètes genevois qui se préparent pour les Jeux de Paris 2024. Aujourd'hui, Roman Mitiouk.
Bonjour Roman Mitiouk.
Bonjour Seb.
On est, je le disais, à 325 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Pour commencer, est-ce qu'on est à 325 jours, ça va, on a encore le temps, ou on est à seulement 325 jours des Jeux Olympiques?
Ah, c'est une bonne question. Non, ça va arriver très vite, surtout ce cycle olympique-là, il a duré 3 ans au lieu de 4. Donc, depuis les derniers Jeux, c'est passé très vite. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ouais, une saison c'est long, mais à la fin, ça passe très très vite. Donc, et surtout, c'est la saison entre guillemets la plus facile parce que tu as déjà fait la grosse partie du travail. Donc, il y aura un peu plus de plaisir niveau compétition, entraînement. Donc, ça va passer plus vite. Ouais.
On va parler de ton actualité un peu plus tard, notamment de cette médaille de bronze que tu as acquis le mois dernier aux Mondiaux de Fukuoka au Japon. Mais on va parler un peu aussi de ta qualification. C'est un peu l'intérêt aussi de ce podcast, c'est de suivre des athlètes. Toi, en termes de qualification, t'en es où? Est-ce que tu es déjà qualifié, pas encore qualifié? Est-ce que tu arrives un peu à rappeler pour qu'on s'en sorte? C'est parfois très vague, mais là, est-ce que tu arrives à nous rappeler un peu le tout?
Ouais, du coup, la période de qualification en natation, elle commençait en mars avec les chemins à Suisse et elle dure un an et demi jusqu'au jeu. Jusqu'au mois de mai 2024. Et j'ai fait ma première qualif aux 200 mètres d'eau au Championnat Suisse, justement en mars. La première chance que j'ai eue, je l'ai prise. Je me suis qualifié sur cette nage. Et lors des Championnats du Monde, qui était aussi une compétition qualificative pour les Jeux, j'ai fait mon deuxième temps sur le 100 mètres d'eau. Donc j'ai mes deux tickets pour Paris et je suis très content.
Est-ce qu'on peut t'imaginer te voir dans d'autres nages? Est-ce que tu as encore un moyen de te qualifier? On sait qu'à Paris, dans le bassin olympique, il y aura Roman Mitiouk sur ces deux nages, je rappelle, le 200 mètres d'eau et le 100 mètres d'eau.
Il y a toujours moyen de se qualifier dans d'autres nages, mais ça ne sera pas réellement mon but. J'ai mes deux courses principales, ma spécialité qui est le dos. J'ai fait mes temps sur ces nages et je m'en contente.
Tu n'aurais pas envie d'aller chercher, je ne sais pas, hein.
J'aurais pu, franchement, pour mon ego, aller chercher d'autres tickets, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi peut-être des relais qui vont se qualifier. Ça on ne sait pas, on verra comment la saison va se dérouler. Mais oui, je vais me concentrer spécialement sur ces deux nages.
Donc on sait, tu es qualifié pour les Jeux de Paris, ça c'est une bonne chose. On va faire un peu plus connaissance avec toi maintenant. On va repartir presque de la base. Où est-ce que toi, tu as grandi? Tu as grandi à Genève, tu as grandi ailleurs. Raconte-nous un peu d'où vient Roman Mitiouk.
Ouais, je suis genevois, je suis né à Genève, j'ai toujours vécu ici. J'ai commencé la natation à Genève, j'ai tout fait à Genève en fait. J'ai ma famille, mes amis à Genève, j'ai étudié et nager à Genève. Donc,
t'as grandi dans quel secteur de Genève? Rive gauche, rive droite?
Rive droite, oui. J'habite vers la gare, donc quartier des Délices. Donc, voilà.
C'est quoi ton premier souvenir dans une piscine? Pas forcément en compétition, hein, pas forcément à une école dans une école de natation, mais si tu dois remonter à ton premier souvenir dans une piscine, c'est quoi?
Après, l'école de nat, là où t'apprends à nager, entre guillemets, j'ai des bons souvenirs là-bas et je m'en souviens beaucoup. Sinon, j'ai des souvenirs évidemment de ma première compète qui était à Rouenet en 2009. Ça remonte.
C'était le challenge de la tribune ou rien à voir?
Non, c'était, je me rappelle même plus, c'était un petit meeting. Mais c'est vrai que j'ai fait aussi le challenge de la tribune, mais c'était un petit peu plus tard. Et ouais, c'est vraiment des bons souvenirs parce que tu sais que tu viens de là, quoi.
Quand tu as commencé la compétition en école de natation, ou même en école de natation, c'est pas encore de la compète, hein, c'est juste école de natation, tu apprends à nager, c'est la base.
Ouais, c'est ça, tu apprends à nager, tu passes les niveaux là, ouais. Ils nous donnaient des petits autocollants, je sais pas comment ça s'appelle, ouais. À chaque niveau que tu passais, donc on était très contents jusqu'au palier 8, je crois, et après le palier 8, tu pouvais gentiment commencer la compétition et nager un peu plus. Donc, ouais, la première compétition, c'était vraiment, je pense, trois années après que j'ai vraiment commencé à apprendre à nager.
Et déjà là, on est venu vers tes parents en disant, dites voir le petit Romain, il faudrait l'inscrire, ou tu étais encore un peu dans la masse? T'as tout de suite été plus fort que tout le monde, tu t'en souviens ou...
Ah, ça, je me souviens pas, faut leur poser la question, hein, mais je pense que je savais que j'étais fait pour le sport, pas pour ce sport spécialement, parce qu'en parallèle, je faisais de l'athlétisme. Donc, je crois que c'est plus vers les 2010 où j'ai penché pour la natation. Et ouais, là, je me suis dit que... Je me suis pas dit qu'il y avait un truc à faire, parce que pour moi, jamais j'aurais espéré être là où je suis aujourd'hui. Mais au moins, nager à un niveau acceptable, c'était un peu mon rêve.
Tu suivais un peu les Jeux Olympiques quand tu étais petit? Tu regardais en natation ou dans d'autres, en athlétisme, peut-être aussi, jeux d'été à chaque fois? Tu suivais tout ça, des Jan Thorpe ou des Michael Phelps, peut-être?
Ouais, les Jeux, je les regardais tout le temps, même les autres compétitions. Mais mon premier souvenir, c'était les Jeux de 2008. J'étais devant la télé et ce qui est marrant, c'est qu'il faut savoir que les Jeux, bah, c'est sur 2 semaines. Et vu que la natation et l'athlétisme, c'est les sports les plus regardés, ils mettent la natation sur la première semaine et l'athlétisme sur la deuxième. Et je me rappelle très bien que je regardais la natation et j'avais hâte que ça se finisse pour que l'athlétisme commence, parce que c'est vraiment à l'époque, je ne pouvais pas voir la natation et je préférais l'athlétisme, justement.
Et donc ça anticipe un peu ma prochaine question. On a tous été dans ce cas, tu as dû choisir entre deux sports. À quel moment tu as fait le choix de la natation et pourquoi? Tu en avais marre du tartan ou...
C'est une bonne question aussi. Je pense que j'avais plus d'amis finalement dans la natation. J'avais des meilleures ententes ou même je me sentais mieux, je pense, dans l'eau. C'est difficile à dire. C'était aussi un cadre plus sérieux, je dirais. En athlétisme, c'était pas vraiment de l'athlétisme comme on connaît ce sport, mais c'était plus t'arrives à l'entraînement, tu fais des jeux, tout ça. Donc, j'ai fait quelques compètes en athlétisme justement, mais je pense que ouais, justement, la natation, j'avais plus d'amis, c'était un cadre plus sérieux dans lequel je me plaisais plus.
Aucun regret maintenant? Tu te revois pas aux Jeux de Tokyo en 2021 sur une piste d'athlétisme?
Aucun regret, mais c'est vrai que des fois, je me dis. Ça me ferait plaisir de faire un autre sport à haut niveau, mais là, c'est trop tard, évidemment. Donc, ouais, aucun regret.
Est-ce que tu te souviens de ton premier échec? Ou ce que tu considères, toi, comme un premier échec? On dit parfois qu'on apprend plus dans la victoire, dans la défaite. Je ne sais pas si, quand on est un sportif d'élite, on applique aussi ces phrases. En tout cas, dans le sport amateur, on les répète sans cesse. Ton premier échec ou ton premier apprentissage, plutôt, tu t'en souviens?
Ouais, je pense que c'était récent en plus. C'était les Championnats d'Europe l'année dernière, en 2022, où j'ai fait 3-4e place. Je pense que c'était vraiment, je sais pas si on peut dire un échec, mais un réel apprentissage, comme tu as dit. C'était très dur à digérer, parce que j'avais déjà fait une médaille aux Championnats d'Europe la saison dernière, et c'était amplement possible d'en refaire une. Et ça s'était pas très bien passé au final, donc c'était très dur, franchement. À la fin du 200 d'eau, quand t'arrives, tu vois, t'es quatrième, c'est...
J'arrive même pas... T'as tout donné, j'imagine, t'es exténué aussi à ce moment-là.
J'avais tout donné, c'était une sensation un peu bizarre, parce que je dirais pas que le monde s'écroule sur toi, mais quand tu travailles une saison entière et qu'au final tu finis même pas avec une médaille, j'avais honte de moi aussi, même si c'est des mots forts. Il y avait mes parents aussi sur place et j'avais très honte de moi, mais au final, ce que j'en ai discuté avec mon coach ou même avec moi-même, je me suis dit que c'était un bel apprentissage et c'était un mal pour un bien, justement. Il fallait que ça arrive à ce moment-là, parce que par le passé, j'avais pas vécu beaucoup d'échecs.
T'avais pas pris de claques, en fait, qui te remettent en question aussi?
Voilà, j'avais jamais pris de réelles claques, en fait, dans le passé. Donc, c'était vraiment ma première claque, ma première défaite. Et je pense que ça m'a beaucoup servi. Là, ça me sert encore, mais la saison dernière, ça m'a beaucoup servi. À chaque entraînement, j'y pensais. Quand c'était dur, j'y pensais et je me disais, bah, faut que je travaille encore plus pour pas revivre, en fait, cette quatrième place. Et je pense que c'était un bel apprentissage aussi pour les échéances qui arrivent, notamment les Jeux.
On va reparler après, hein, justement, de ces quatrièmes places, de ta médaille aussi au championnat du monde tout récemment. Mais d'abord, une question qu'on se pose tous quand on regarde nager. Est-ce que tu arrives à avoir une vie à côté de la natation? Est-ce que tu as une vie? Est-ce qu'il existe un deuxième Roman Mitioukov?
Oui, bien sûr. Même si c'est compliqué à trouver du temps avec tous ces entraînements, déjà, je suis étudiant à l'Uni de Genève, qui est juste à côté, et en troisième année, du coup. Et ouais, j'essaie de trouver du temps pour les amis, pour sortir un peu de cet environnement. Les week-ends, par exemple, je change toute la semaine, donc la semaine, c'est compliqué avec tout l'emploi du temps, mais les week-ends, j'essaie de sortir un maximum avec les amis, boire un verre ou manger un aller au resto ou quoi. Ça m'aide et c'est très important, je pense, dans la vie d'un athlète.
Tu le dis à ton coach le lundi, écoute, je vais aller manger une pizza samedi, j'espère qu'on le verra pas trop ou...
Non, il sait ce que c'est d'être un athlète professionnel, il sait que tu prends cher toute une semaine et généralement, je me permets un petit écart samedi soir au resto avec une pizza par exemple, ouais, mais il accepte, il sait comment c'est. Donc,
ça... Il vient avec toi des fois ou...
Non, je le vois assez pendant la semaine, j'ai pas besoin de le voir les week-ends, non, c'est strictement avec les amis.
Tu l'as dit, t'es étudiant hein, en droit à l'Université de Genève, en troisième année, c'est toi qui as choisi de continuer tes études à côté ou c'est tes parents à l'époque qui t'ont dit d'accord, tu peux nager, mais les études c'est aussi important, ça c'est des phrases qu'on entend beaucoup à Genève.
Ouais, c'est aussi mes parents, c'est mon éducation finalement, et j'ai été éduqué comme ça, mais au final je pense qu'ils ont raison, et je fais pas des études pour faire des études, hein. Je m'y plais aussi dans ce que je fais, donc c'est le plus important, et j'aimerais bien aussi sortir de ma carrière de nageur avec un diplôme et voir ce que je peux faire après, mais c'est pour mes parents et pour moi très important.
Quand on concilie vie sociale, vie d'étudiant et vie de nageur, on a des fois besoin de tout déconnecter et de se dire je pars une semaine ailleurs et ne me parler plus de rien ou... tu sens le besoin peut-être de faire ça ou...
Alors partir une semaine ailleurs pendant une saison, c'est compliqué parce que nos saisons, elles vont de août à août. Donc on a généralement du temps les vacances d'été pour respirer, relâcher la pression un petit peu. Pendant la saison, c'est très compliqué. Oui, des fois, on a quelques jours de pause, maximum 3, 4. Et oui, là, c'est très important de déconnecter avec les bassins, même les études. Et il faut que aussi je trouve du temps pour moi-même. Et ouais, c'est vrai que des fois, mentalement, c'est très compliqué. Hein. Pendant une saison, tu peux pas, on n'est pas des robots. Et on a aussi besoin de temps pour nous. Hein.
Est-ce que quand tu pars en vacances, tu cherches une résidence avec piscine?
Non, la piscine, je peux plus me la voir les vacances. J'essaye de trouver quelque chose au bord de la plage parce que c'est oui, on a le lac à côté, mais la plage, c'est ce que j'aime le plus en vacances. Et même si j'ai une piscine à l'hôtel, je vais éviter d'y aller.
Je
vais privilégier la plage.
Oui.
Ouais, peut-être rester sur le côté en train de bronzer, mais pas aller dedans. Hein.
Dans le Team Genève, il y a Élise Chabet. Je ne sais pas si tu connais un peu sa particularité. Elle a participé aux JO en 2012 en kayak. Et là, elle vise Paris en cyclisme sur route. Si là, maintenant, on te dit, tu peux choisir un autre sport en natation, dans quel sport olympique t'aimerais t'aligner et pourquoi?
J'ai plein de sports que j'aime.
L'athlétisme, du coup, tu reviendrais aux bases ou...
Franchement, l'athlétisme, ça me ferait... Ouais, je pense que j'aimerais bien. Mais il y a plein d'autres sports de jeu, par exemple, que j'aimerais bien faire.
Comme quoi?
Le volleyball, même si je suis pas très grand, je fais que 1m80, donc je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est dur à dire, hein. Franchement, il faut que je me pose cette question, mais oui, il y a plein de sports que je regarde habituellement à la télé, qui le tennis par exemple, ouais. Tous les sports de jeu en fait, parce que nous on est un sport de chrono. C'est un sport où tu nages tout seul, des fois c'est pas ouf.
Pour te mesurer à quelqu'un en face de toi et pas quelqu'un qui est à côté et tu constateras à la fin ce qu'il a fait, quoi.
Ouais, il y a ça, il y a aussi cette forme de jeu que j'aime bien, même à côté de la natation, là, quand j'ai du temps, je vais faire du tennis, du paddle, tout ce qui est avec des points en fait, où je peux gagner différemment qu'en touchant premier, donc... Ouais, je pense que les sports de jeu comme le tennis ou le volley me plairaient bien.
Un sport d'équipe,
un sport d'équipe.
Un sport collectif, tu t'imaginerais aussi parce que tu es vraiment tout seul dans ton bassin, même s'il y a l'équipe de Suisse, par exemple, sur des relais, vous nagez tout seul, c'est quelque chose qui t'intéresserait. Tu pourrais t'intégrer, toi, dans une équipe?
Oui, je pense.
Si maintenant, il y a Chenois Volley qui appelle en disant on a besoin d'un joueur d'un mètre 80, tu y vas?
Bah, avec plaisir, mais bon, ça va être compliqué de concilier ça avec la natation. Non, c'est... Je suis vraiment fan des sports d'équipe aussi. Je regarde beaucoup le hockey, le foot. Donc je pense que ça me plairait énormément aussi. Et c'est différent aussi, parce que dans la natation, dans les sports individuels en général, t'es tout seul, t'es obligé de prendre soin de toi à 100%, t'es obligé de tout faire bien pour avoir le meilleur temps possible sur une course, alors que les sports collectifs, tu peux, je pense, des fois t'autoriser un petit écart et compter un peu sur les autres, et t'es pas obligé d'être focus à 100% sur toute une saison. Donc je pense que ouais, je serais très intéressé de faire un autre sport. Mais justement, maintenant que j'y pense, le hockey, sachant qu'on a une belle équipe à Genève, ça m'aurait fait très plaisir de faire ce sport.
Mais... C'est vrai, donc un petit essai avec le Genève Servette. On lance les appels s'ils entendent ce podcast.
Ça va être très compliqué. Faut d'abord que j'apprenne à bien patiner, et après, pourquoi pas. Ouais.
On revient un peu sur la natation. Est-ce que toi, tu es entouré durant ta saison, avec un nutritionniste, avec un préparateur physique? Comment est ton entourage, en fait, pour te préparer au mieux à tes compétitions?
Bah, en gros, j'ai mon coach Clément Bailly, j'ai un préparateur physique et aussi mon coach Yvan Rousty, il s'appelle, et un autre assistant, Florent Trésarieux. Donc on est trois, j'ai trois coachs en gros, un qui est principal, donc c'est avec eux que je travaille toute la saison dans l'eau et dans la salle de muscu. À côté, j'ai un masseur, j'ai un physio aussi, et voilà.
Et l'aspect nutrition, tu le prends en compte ou tu manges bien et tu fais pas plus attention?
Ouais, j'ai fait quelques rendez-vous avec des nutritionnistes. Je vais pas dire que j'ai la science exacte, mais je sais à peu près ce qu'il faut faire maintenant, avec l'expérience aussi. Et oui, évidemment, je fais gaffe à ma nutrition, tout ce que je mange, tout ce que je bois. Donc c'est très important, mais sans avoir quelqu'un qui me suit derrière.
On va revenir sur ta dernière grosse actualité. Hein. On le disait, c'est la médaille de bronze au championnat du monde dernièrement. Est-ce que t'es remis des émotions? Tu t'es remis de cette médaille?
Oui, je me suis vite remis des émotions, bizarrement. Je pense quelques jours après, j'étais déjà motivé de commencer une nouvelle saison et de progresser de plus en plus. Donc ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre cette médaille, mais c'est pas une finalité pour moi. Donc le monde continue.
T'arrives à anticiper l'émotion quand tu reçois une quota, quand tu finis troisième d'une course, tu t'es dit « Ah, c'est marrant, je pensais pas que j'aurais réagi comme ça ».
Non, en fait, j'anticipe pas l'émotion, dans le sens où, oui, dans le coin de la tête, j'avais la médaille, mais j'essayais pas trop d'y penser pour pas que déjà ça me porte malheur et pas que je refasse aussi les mêmes erreurs que j'ai fait au Championnat d'Europe justement l'année dernière, où je l'avais dans la tête et au final je l'ai pas eu, donc j'essayais... d'y penser un minimum, et ouais, j'ai pas su anticiper justement cet état d'esprit. J'ai juste touché, j'ai vu la troisième place, et ouais, c'est venu naturellement.
Et justement, t'as parlé de pas y penser pour porter malheur. T'as un petit rituel, toi, avant chaque course, que tu dois faire avant de rentrer au bord du bassin, ou même dans le vestiaire?
Ouais, j'ai plein de petits rituels, mais pas de rituel très très important.
Vas-y, donne-nous un exemple.
Par exemple, j'arrive à la piscine, au stand suisse, tout doit bien être ordonné, on a une chaise, enfin on a un petit espace pour l'équipe suisse, on a chacun une chaise généralement, et j'essaye de tout bien plier les affaires, mettre un peu les bouteilles comme Raphaël Nadal devant moi, devant ma chaise. Donc c'est des petits trucs comme ça qui sont un peu des automatismes maintenant, mais je pense que c'est des rituels et j'arrive pas à faire sans.
Ouais, donc c'est une superstition ou plutôt du confort du coup? J'ai cru comprendre que c'était plutôt du confort pour toi.
Les deux, je pense. Je suis très je suis très dans la superstition.
Ouais, super, ouais, superstitieux quoi.
Superstitieux, ouais. Voilà. Ouais, au quotidien, même maintenant en pleine saison, j'ai plein de petits trucs. Mais des fois, je me dis que je suis fou, quoi, parce que trop de superstitions, c'est...
C'est quoi? C'est dans le langage? C'est dans ta manière de préparer? C'est...
Ouais, c'est dans ma manière de préparer. C'est pas dans le langage, c'est aussi. Parce que si les médias, par exemple, avant les grandes compètes, me demandent mes objectifs, je vais pas leur dire. Okay. Enfin, je vais leur dire que j'ai, mais je vais
pas trop en parler. Donc je peux enlever ma question sur les objectifs pour Paris, là.
tu peux l'enlever, ouais. Non, mais c'est surtout dans la préparation d'une course, d'un entraînement. J'ai mes petits trucs à moi que je saurais pas dire actuellement, puisqu'il y en a tellement que j'arrive même pas à les lister, donc...
J'avais une question pratique pour toi. Comment tu sais que t'es troisième après ta course? Tu regardes un écran? C'est quelqu'un qui te le dit? Comment ça se passe?
En dos, c'est spécial parce que, en gros, dans une piscine, généralement, il y a un écran devant et la piscine est derrière. Et en dos, quand tu arrives, tu touches le mur, tu as direct l'écran en face de toi et tu le vois directement, en fait. Tu vois directement si tu es troisième ou non. Et là, justement, j'ai touché, je vais direct sur ma ligne, je vois le 3 à côté, ouais. Sans regarder le temps, limite. Et c'est comme ça qu'on voit. Mais sinon, sur les plots, il y a aussi des petites lumières qui s'affichent pour les 3 premiers. Okay. Mais ça, c'est plus pour les spectateurs, par exemple. Mais moi, personnellement, j'arrive sur le dos et je le vois direct, en fait.
Ouais, donc, tu n'as pas une demi-seconde de doute en disant « je sais que j'étais très proche de la ligne d'à côté, peut-être qu'il a fait mieux ».
Non, ce n'est pas comme en athlétisme, par exemple, où ils arrivent et le temps s'affiche progressivement. En natation, tu as direct ton temps et tu vois direct ta place. Donc, voilà, tu n'as pas le temps de penser à si c'était bien ou pas.
Et là, toi, la première chose à laquelle tu penses, en voyant que tu es troisième, c'est quoi ? Yes, enfin une médaille ou mon entraînement a payé ? À quoi tu penses ?
Soulagement et de me dire que je ne vais pas vivre les mêmes émotions que j'ai vécues l'année dernière à Rome. C'était vraiment le principal de mais c'était plus soulagement, relâchement, j'ai senti que
émotion, une petite larme ou même pas
Non, pas petite larme. Par exemple, après ma première médaille au Championnat d'Europe, j'avais versé ma petite larme, là je l'ai pas versée. Non, là bizarrement, peut-être je m'attendais un petit peu à la verser, cette petite larme, mais au final normal.
Et après ta médaille, ça a été quoi la suite? Je sais que tu as eu des interviews avec les médias notamment, tu as tout ce rôle-là aussi à assumer, mais tu arrives à nous raconter un peu les premières 12 heures d'un médaillé de bronze au championnat du monde. Ce qui n'est pas rien quand même, on en parle comme ça, mais c'est quand même une belle performance.
Là, tu sors de ta course, tu as les médias évidemment, comme tu as dit, tu as la cérémonie de médaille qui est très importante. Tu as aussi les interviews après la cérémonie de médaille.
Toujours ces médias.
Les photos. Tu reviens au box, là où on est avec l'équipe suisse, t'as le contrôle antidopage.
Ça te fait redescendre sur terre un peu, de te dire ok, bon bah je vais faire mon petit contrôle antidopage, même si tu sais que t'es clean.
Non, ça
n'a pas gâché un peu la célébration?
Pas du tout. Bah après ça arrive à tout le monde. Enfin ils prennent pas tous les médaillés, donc ça je trouve ça un peu bizarre, mais c'est un autre sujet. Mais mais non, ça va, franchement ça fait partie du sport et moi ça me fait plaisir de faire ce contrôle. Et après ce contrôle justement que j'avais fini vers 23h30, je devais encore nager la souplesse parce que mon cher entraîneur voulait que je nage cette souplesse alors que moi je voulais pas, je voulais juste rentrer à l'hôtel, manger et dormir, sachant que...
C'est quoi nager une souplesse juste
Ouais, c'est récup, c'est, tu, okay. Tu nages...
C'est le décrassage ça c'est
le décrassage, voilà, ouais. Tu nages 15-20 minutes pour enlever un peu l'acide lactique du corps. Ouais. Et le lendemain, justement, matin, j'avais le 50 d'eau, qui n'est pas une discipline olympique. Donc, je l'ai appris justement à ce championnat que j'avais ce 50 d'eau, alors que je ne pouvais pas du tout le faire. Parce que je ne suis pas un sprinteur et personnellement, ça ne me sert pas à grand-chose, je dirais. Mais mon entraîneur voulait que je le fasse. Donc, j'ai dû vite aller dormir et me lever à 7h30 pour...
Même pas eu l'occasion de boire une coupette de champagne.
J'ai eu l'occasion de rien faire, malheureusement. Je suis allé faire ce 50 d'eau et je fais un temps pas ouf. Donc, ce que je m'attendais un petit peu. Mais après ce 50 d'eau, j'avais une journée de médias un peu à faire des interviews, à répondre aux messages... À profiter un petit peu aussi, puisqu'il me restait encore le dernier relais 4 nages. Donc, j'ai pas eu le temps de beaucoup profiter. C'est pas comme si c'était ma dernière course et je pouvais relâcher. J'avais encore plein de choses à faire après.
Mais t'as fait la fête quand même un peu quand t'es rentré à Genève avec tes potes, je sais pas. Je sais que t'étais en vacances juste après. T'as profité quand même, t'as savouré cette médaille.
Oui, bien sûr. On a bien fêté. Même là-bas, le dernier soir, on est sortis entre athlètes, entre collègues de mes amis de la Fédé, et moi quand je suis rentré j'ai profité avec mes amis, donc j'ai pu profiter de cette médaille.
On parlera dans les prochains épisodes notamment de tes entraînements, de comment tu te prépares, etc. Mais pour se rendre compte, une médaille de bronze au championnat du monde, ça représente pour toi combien d'heures d'entraînement, combien de jours, combien de mois? Est-ce que tu arrives à quantifier l'entraînement nécessaire pour une médaille de bronze?
C'est dur, hein. Je pense que c'est vraiment l'accumulation de chaque saison depuis que je suis tout petit, en fait. C'est pas qu'une saison qui fait que t'es médaillé, non, c'est vraiment comment t'es depuis tout petit, mentalement, physiquement, comment tu t'entraînes, si tu te donnes à 100% à chaque entraînement, si tu manques des entraînements ou pas, si tu fais attention à tout ce qui est à côté, le sommeil, la nutrition, et c'est un cumul de choses, en fait, et si, enfin, c'est mon avis personnel, si chaque saison tu fais tout ça tout bien, ça s'empile et tu progresses gentiment et pour obtenir justement cette médaille.
Et là on revient aussi sur les quatrièmes places dont on parlait un peu plus tôt, justement cette espèce de baffe qui te remet un peu en question et ça te permet de nager troisième, quoi. De toucher troisième, c'est comme ça qu'il faut dire.
Toucher troisième, ouais. Oui, c'est clair que c'était une grosse force pour moi cette saison. Surtout dans les séries dures, là où tu prends vraiment cher. Là où c'est vraiment compliqué. Hein. C'est des entraînements où tu finis, t'arrives limite plus à marcher, t'as mal au bras, t'as mal au corps. Et justement, cet échec m'a beaucoup servi mentalement aussi. Et d'ailleurs, même sur la dernière longueur du 200 mètres d'eau, je sais pas du monde, j'y pensais.
T'as pensé que pendant ta course, t'es en train de te dire, je veux pas être quatrième.
Ouais, je veux pas être quatrième et je vais donner encore 1% en plus de ce que j'ai en fait à offrir. Et au final, ça a marché. Je pense que ça a été une réelle force pour moi.
C'est fou justement. Tu penses à quoi pendant ta course? Parce que tu penses à tout et rien ou tu penses vraiment à ta performance, à ta stratégie? On en parlera aussi dans les prochains épisodes, hein, puisqu'on va suivre jusqu'au jeu quasiment. Mais ta stratégie, te dire bah maintenant je dois accélérer. Mais quel moment, moi c'est ça qui me fascine, c'est à quel moment tu arrives à penser à ta quatrième place alors que tu es en train de nager, tu as déjà fait 150 mètres, tu es à fond, tu dois avoir les pulses presque au max. Et toi, tu arrives à te dire je veux pas être quatrième.
Ouais, le 200 d'eau pour moi, déjà sur le championnat du monde, c'était beaucoup sur la stratégie, sur comment gérer cette course, puisque justement, bah, j'ai toujours parlé de cette quatrième place, mais c'est là où j'ai beaucoup appris. Justement, j'étais parti trop vite en fait au championnat d'Europe. Du coup, par rapport au championnat du monde, j'étais parti une seconde deux plus vite. Et j'ai changé du coup ma stratégie cette saison, en partant un peu plus lentement. Donc oui, pendant la course, tu penses un peu à ta stratégie, à comment partir. Et c'est vers les, je sais pas, 100, 125 mètres que tu commences à accélérer progressivement. Et sur le dernier 50, en fait, tu te déchires, tu t'arraches. Donc là, tu n'as plus rien à penser à comment nager stratégiquement, tout ça. Donc tu n'as plus qu'une chose à penser, c'est que je dois finir cette course. Et là, bah, tu as tout qui te revient dans la tête, la quatrième place, les entraînements durs, et c'est là où tu réfléchis plus en fait.
Et comment tu sais que tu es à 125 mètres? C'est une question purement pratique, hein, mais tu as des indicateurs sur le bassin, tu as quelque chose?
Ouais, généralement, quand on arrive dans une compète, on cherche un peu les repères, savoir un peu où tu es dans la piscine, surtout en dos, parce que bon, dans un nage libre, les autres nages, tu as les marques au fond de la piscine, donc le dos, il faut chercher un peu les repères en haut de la piscine. Ouais, c'est comme ça un peu que je m'oriente, mais après je travaille tellement cette nage à l'entraînement que sans les repères, je
tu
sais
le sens
à peu
physiquement
près. Ouais, tu le sens physiquement, tu sais à peu près où t'es.
Mais donc c'est pour ça, je me souviens quand j'étais petit, j'avais posé la question à mes parents de pourquoi les nageurs sont pas contents quand ils gagnent une médaille, c'est qu'en fait vous êtes cuit à la fin d'une course.
Ouais, on est cuit. bon, après ça dépend qui, parce qu'il y en a qui ont une médaille, ils voulaient être champion du monde. Il y en a, ils sont très contents comme moi d'avoir une médaille. Donc ça change, ouais. Ça change d'une course à l'autre aussi, parce qu'il y a des courses, t'arrives, t'es mort vraiment. Comme les 200 mètres, c'est là où ça commence à piquer. Mmh. Les 50 mètres, les 100 mètres, pour moi, t'as pas trop le temps d'être fatigué. Ouais, ça change d'une course à l'autre.
On arrive gentiment à la fin de ce premier épisode, mais on va d'abord s'intéresser aussi à ce qui arrive cette saison olympique. Hein, je l'ai dit, les Jeux sont dans 325 jours. Toi, c'est quoi tes échéances cette saison? T'en as plusieurs ou t'as que Paris 2024 en juillet prochain?
Alors, Paris 2024, ça va être évidemment la compète principale de la saison.
On l'imagine,
ouais. Logiquement. c'est là où je devrais avoir la meilleure forme, le pic de forme. Avant ça, j'ai début de saison, là j'ai des Coupes du Monde, je ne sais pas encore combien j'en fais, qui sont en grand bassin. En février, il y a les championnats du monde à Doha. C'est très bizarre parce que normalement, les championnats sont en été, mais là, ils ont décalé à cause du Covid. Donc, ils seront en février. Après, j'ai les championnats suisses en mars.
Donc, quand même, quelques compétitions pour...
Ouais. C'est une saison avec toutes les compétitions internationales. Championnat du monde, championnat d'Europe et jeux. Championnat d'Europe, ils ne savent pas encore s'ils les mettent en mai ou en août. S'ils sont en mai, je vais les faire probablement. S'ils sont en août, je ne vais sûrement pas les faire. Après les jeux, je vais déconnecter complètement. Donc, ouais, ça va être une saison assez chargée. Ouais.
Est-ce que tu vas changer quelque chose dans ta manière de t'entraîner? Est-ce que tu te dis, ce qui a marché pour cette troisième place, je vais garder ça, je vais enlever ça? Est-ce que tu remets un peu en question ta manière de t'entraîner pour cette année qui arrive?
Non, pas du tout. Je vais continuer dans la même optique. Je vais pas changer beaucoup de choses. Hein. Je vais garder ma ligne de conduite et m'entraîner un petit peu. Enfin, avec, je vais rajouter un petit pourcentage à l'entraînement de motivation. Je vais essayer et on verra.
Est-ce que c'est comme dans tous les sports, il y a ce petit supplément quand tu nages en compétition, c'est toujours mieux que de nager à l'entraînement ? Est-ce que tu as ce petit influx nerveux en plus, tu as cette petite chose ou...
Ouais, je suis très compétiteur comme mec, ouais. Donc depuis plus jeune, c'est vraiment les compétitions que j'aime. Un sport où tu arrives au mur et tu vois ton temps et que le but c'est de battre à chaque fois ce temps. Donc les compétitions, je m'amuse vraiment. Même s'il y a des compétitions, c'est un peu plus dur. Mais généralement, dans les compétitions, je m'amuse. Donc, j'ai très hâte même des petites compétitions hein, pour faire des courses et mettre la combi.
Parfait. On va terminer cette question par un tu préfères. Tout bête, est-ce que tu préfères terminer toujours quatrième, mais tu continues de nager autant que tu veux, ou alors tu gagnes un titre, mais tu dois t'arrêter immédiatement après ?
Ça dépend quel titre.
Bon, un titre au championnat du monde ou au JO ?
Oh, un titre au JO, je m'arrête volontiers après.
C'est vrai, tu mettrais. C'est là, bon. À Paris, tu gagnes la médaille d'or, tu arranges
oui.
Tout.
Ah oui, oui. C'est vrai, je préfère ça que finir quatrième.
Ok.
En fait, c'est tout bête, mais oui, je fais ce sport pour le plaisir de le faire. Mais si à chaque saison, je fais une quatrième place, je serais pas content de moi. Donc, ouais. Le fait de faire un one-shot, faire champion olympique, ouais, je peux mourir en perdre.
Parfait. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Roman, en tout cas, d'avoir été le premier invité du podcast Paris-Ici les Jeux. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et puis, Roman, on se retrouve dans environ 2 mois pour un nouvel épisode. On parlera de ta manière d'entraîner aussi, puisqu'il y a tout cet aspect-là. Merci beaucoup.
Merci à toi. À bientôt.
Retrouvez l'intégrale de Paris-Ici les Jeux sur toutes vos plateformes de podcast préférées et sur radiolac.ch.
Un podcast Radiolac en partenariat avec Team Genève, le programme de soutien aux sportifs d'élite du canton.